good evening, bonsoir. Vous êtes sur Amuse Gueule, la radio des francophones et francophiles d'Auckland. Et ce soir, à la technique, nous avons Yvan.
Bonsoir.
Bonsoir Yvan. Il fait plus chaud dans le studio que dehors. Hein. On se disait tout à l'heure, c'est une des journées les plus froides qu'on a eues. Mais Blandine, qui revient de France, je ne sais pas ce qu'elle en pense.
Oui, il fait frais.
Ça te change, le temps d'été parisien.
L'été parisien, l'été tout court, parce que je n'étais pas à Paris. Mais.
Mais t'es pas bronzée beaucoup. Hein.
Non, pour
mais elle passe la vie dans les musées.
Non, mais j'ai passé du temps au soleil, hein, mais bon.
C'est
non,
le bronzage Bretagne.
Voilà.
Hein
ouais.
Breton.
Elle n'aime pas tellement le soleil. Et Séverine, voilà. Là. Donc, on va parler de diverses choses ce soir. Blandine, tu vas nous parler de la raison principale pour laquelle tu as été en France, peut-être.
Oui, en tout cas, le dernier mois que j'ai passé en France, effectivement, ouais, qui était pour commencer à filmer un documentaire sur Frances Hodgkins.
Ouais. Voilà. Et moi, je vais essayer de vous faire deviner mon sujet, mais c'est pas trop dur. Mais on commence par une musique que Yvan vient de choisir.
Voilà.
Qui s'appelle
En douceur.
Parfait.
C'était Françoise Brut. Elle vient du nord de la France. Je ne sais pas exactement où, mais en tout cas...
C'est super.
Ouais, voilà.
C'était pas En douceur. Hein. Je pensais qu'En douceur, c'était le titre du morceau. C'était pas
c'était,
trop ça.
C'était La certitude, tu vois.
Certitude, d'accord.
Oui, certaine. Mais en tout cas, c'est une très bonne chanteuse, Françoise Brut.
Moi, je la connaissais pas. Non, tu me fais toujours écouter des chansons qu'on ne connaît pas.
Bah, c'est un peu le but.
Ouais. Donc là, j'aimerais vous faire écouter quelque chose d'autre.
Très bien.
Que tout le monde connaît cette fois-ci et on parlera après. Donc c'est parti, ouvrez vos leurs oreilles.
Ça
marche ?
Ça va marcher, ouais, si tu envoies la musique.
Alors, mais c'est envoyé, tu vois.
Peut-être le son.
Ah oui.
En tout cas, ça repose, hein.
Écoute. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quoi je vais vous parler ?
De la nature.
Mais plus précisément.
De la méditation.
Oui, c'est vrai qu'il y en a pour une heure et j'ai trouvé des musiques où il y en a pour trois heures. Non ? Ni de la méditation, quelque chose qui appartient à la nature, plus spécifiquement.
Moustique.
Non. Écoute bien.
Les oiseaux.
Ah, non, c'est justement, c'est pas les oiseaux, c'est les. Voilà. Ce bourdonnement.
Voilà, les guêpes.
Oh, ils disent tout sauf le bon truc.
Les frelons.
Eh ben, non. Alors j'aurais pu dire, tu aurais pu me dire les bourdons. Là, je me dis voilà, tu chauffes. En fait, je vais vous parler des abeilles.
Très bien, très bien.
Les abeilles. D'abord, ça m'intéresse. J'espère que ça intéresse les personnes qui nous écoutent aussi. Et de plus, je suis tombée, j'allais dire. J'ai rencontré des Françaises et des francophiles, les francophones, qui s'intéressent de très près aux abeilles et qui ont des ruches. Donc, c'est des gens que je connais, qui sont des amis. Donc, j'ai bu des cafés avec elles et je les ai questionnées au sujet de leurs ruches. Et je suis arrivée à me dire que ça serait peut-être un sujet intéressant pour la radio. Donc, voilà ce que j'en ai tiré. Donc, les abeilles... les abeilles, en fait, en latin, ça vient du terme, on dit apis mellifera. Parce que moi, je vous ai parlé des abeilles à miel. Hein. Donc, apis, en latin, c'est l'abeille, mellifera qui donne du miel. Et en homéopathie, pour les gens qui. Toi, ça dit quelque chose, Blandine ?
Apis, non, non, pas du tout. Non.
Si, si, moi, ma mère, elle est très branchée en homéopathie.
Voilà,
donc
toi, tu dois avoir un
apis.
Tube. C'est ouais. À chaque fois que tu as une piqûre d'abeille, de guêpe, tu prends des granules apis.
Tout à fait.
Parce que homéopathie, c'est homéo, c'est la même chose. Donc, tu combats le mal par le mal. Donc, tu prends des... Je ne sais pas d'où ça extrait. Peut-être du dard des abeilles. Donc, voilà. Il y a 20 000 espèces différentes sur Terre d'abeilles. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a qu'une, deux... Non. 2 000 en Europe, 1 000 en France. Et la plus connue, les plus connues, ce sont les espèces qui font du miel. Les apis mellifera. Et la plupart de ces abeilles-là se nourrissent du nectar de fleurs. Et je voulais parler un peu de l'expérience de Pascaline, qui a des ruches à Téaraï. Elle a deux ruches que ses voisins lui ont données, parce que elle s'est venue par hasard. Depuis un an, elle s'intéresse de plus en plus. Elle a trouvé que le miel était très bon. Eux faisaient leur miel et elle s'est dit, mais moi, je peux faire la même chose. Et donc, ils l'ont initiée. Et elle est allée plus loin. Elle a suivi l'année dernière, en octobre-novembre, un cours ici à Unitech. Il y avait un week-end payant et deux soirs par semaine entre 9h et 4h. Ah non. Oui, non, c'était le week-end, donc de 9h à 4h, elle a suivi son cours, et quelques soirs dans la semaine, elle a appris voilà comment avoir une ruche, comment les soigner, et des tas de choses très pratiques sur les abeilles. C'est vraiment les bases. Et elle est devenue membre de l'association des apiculteurs d'Auckland. Je pense que c'est un peu pas le béaba, mais on a besoin de passer par là. Et d'ailleurs, ils se réunissent, je suis tombée plusieurs fois sur eux, ils se réunissent derrière le jardin de Unitech, le jardin organique et collectif. Ils font leur réunion là. Et c'est très kiwi comme ensemble de gens. C'est des gens assez âgés, très très reposés, très très accueillants. On boit des tasses de thé tout le temps. On regarde s'envoler les abeilles.
Est-ce que vous goûtez le miel?
Quand je suis tombée sur leur rassemblement, on parlait pas du tout de goûter du miel. C'était vraiment chacun venait avec sa tenue, avec les fumées pour pouvoir endormir un peu les abeilles, et ils soulevaient les ruches, les j'ai pas le mot en français, le rayonnage. Et ils initient un peu les gens qui étaient nouveaux en disant voilà, là il y a le miel est prêt, tu vois, là il y a plus de cire, là les alvéoles sont pas bien formées, là on voit bien la reine, là il y a des larves. Alors c'était en fait une initiation. Ils échangeaient des connaissances, c'est ce que j'ai eu. Moi j'appartiens pas à cette association, j'ai juste assisté à ça et j'ai surtout vu beaucoup de ruches et énormément de d'insectes qui volaient.
Des ruches, on peut en avoir partout à Auckland, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans son jardin, ou est-ce qu'il y a des
limites,
des restrictions, parce que ça peut être dangereux aussi ou pas, comme il y a pas mal de.
Ben, mon amie Babette avait cinq ruches dans son jardin. Mmh. Elle vivait, c'est en zone résidentielle, mais elle avait quand même un assez grand jardin. Et elle en a retiré trois parce qu'effectivement, elle était dans son jardin souvent et elle trouvait qu'il y avait beaucoup trop d'abeilles, ça pouvait devenir dangereux. Mmh. Deux, elle arrivait à leur laisser la place, mais cinq, même si c'est pas elle qui s'occupait des ruches, il y avait quelqu'un qui lui avait mis les ruches, elle a dit c'est trop pour moi, j'ai peur de me faire piquer, c'est trop. Donc je pense que quand on prend un certain nombre de ruches, il faut vraiment. Bien savoir s'en occuper et effectivement peut-être pas trop en prendre au début si c'est pas une activité lucrative.
Parce que tu peux avoir une ruche et avoir des gens qui s'en occupent, c'est ça, sans s'en occuper du tout.
Je trouve que c'est un bon principe. Mmh. Alors là, les apiculteurs qui te posent une ruche chez toi, ils vont pas la mettre si les conditions sont pas favorables. Mmh. Donc il faut qu'il y ait pas mal de un environnement avec des insecticides autour. Mmh. Il faut que ça soit assez varié, il faut qu'il y ait un cours d'eau pas loin, il faut qu'elle soit à l'abri du vent, très exposée au soleil, il y ait des fleurs et près de l'eau. Donc d'accord. Voilà, ça c'est les conditions idéales pour placer tes ruches. Et Pascaline a acheté sa ruche au sud d'Auckland, elle a acheté une ruche, les outils qui vont avec et l'habit. Et dans les outils, le principal outil, c'est... En fait, c'est assez basique. Le principal outil, c'est la soufflette pour pour qu'il y ait de la fumée et que un peu les endormir. Il faut quelque chose comme une raclette parce que ça permet de retirer les rayonnages. Et puis après, avec ce qu'on veut, on enlève le miel.
Quand on achète une ruche, on l'achète avec les abeilles dedans ?
Non. Là aussi, c'est tout un système. On achète ce qu'elle appelle. Alors, j'ai pas trouvé le nom. Elle sait le nom en anglais. C'est un nuc. Donc, c'est 100 abeilles et une reine. C'est ce qu'on commence comme ça. Sachant qu'une ruche peut avoir des dizaines de milliers d'abeilles. Mmh. 20 000, 30 000, 40 000. Quand on voit des couleurs différentes sur les ruches, c'est parce que ce sont des ruches qui ont différentes sortes de miel à l'intérieur. Par exemple, un rucher qui fabrique du miel de manuka, il aura peut-être une couleur rose. Enfin, chaque fleur est identifiée à une couleur.
D'accord.
Donc des fois, on voit, quand on passe dans la campagne, on voit des ruches superposées. Ils ont tous une couleur différente. C'est parce que, je sais que chaque couleur représente une fleur. Ce qui me paraît pas tellement logique si on voit au même endroit différentes couleurs.
Oui, comment savoir qui va butiner quoi?
Je vous dirai dans le prochain épisode.
D'accord.
Je ne sais pas du tout. Donc, ces abeilles vont chercher plusieurs choses dans la nature. Il n'y a pas que le miel. Donc, évidemment, elles récoltent du miel pour les reines. Et. En fait, ce qu'on fait dans la ruche, c'est plusieurs choses. On récolte du miel, on peut récolter la propolis, de la gelée royale. Aussi, il y a des gens qui utilisent les ruches pour la cire, ou au contraire, qui cultivent, entre guillemets, les abeilles. Donc, c'est pour les vendre après. Donc, toutes les ruches, on peut les avoir pour différentes fonctions.
Bien.
Oui. Et là, cet hiver, tu vois, avec 9 degrés aujourd'hui, on peut dire qu'elles ne sont pratiquement pas sorties de leur ruche. Parce que s'il ne fait pas au-dessus de 12, donc c'est un très bon indicateur thermique, les abeilles ne sortiront pas. En hiver, à vrai dire, j'ai lu un petit peu qu'elles sortent juste pour par hygiène. Elles font des vols hygiéniques. Mmh. Mais c'est court et c'est pas productif. Donc la plupart du temps, s'il fait froid, elles restent, elles hibernent.
Donc le miel, on le récolte plutôt en été, c'est ça?
Oui, on peut aussi le récolter. Donc, en été, je sais pas tout sur le miel. J'ai vraiment recherché plus la vie de l'abeille, la structure de la ruche, comment elle communique.
C'est cher en tout cas le miel.
C'est cher.
Miel de Manuka, c'est super cher.
Oui.
Hein?
Oui.
Pour un pot.
Ben, ça dépend des indices aussi.
Ouais, oui. Indice 10, ça vaut au moins 75$ pour un petit pot. Hein. Ce qui est à une.
Je ramène ça à mes tantes en France. Elles sont toutes les trois friandes de ça, elles adorent.
De quoi, le Manuka?
Ouais, c'est mon. Elles adorent les trois, elles sont complètement accro.
Ouais. Mais c'est d'ailleurs des valeurs médicinales.
Hein, oui, tout à fait.
À partir de 5. Indice 5. Ouais.
Mais le miel, ça a toujours une valeur médicinale. C'est. Si tu te coupes, voilà, il suffit de mettre une couche de miel, c'est cicatrisant. Ça a toujours été très utilisé comme un produit, comme un soin.
Bah oui.
C'est pas fait pour être mangé à la cuillère. Les gens, les êtres humains, quand ont trouvé du miel, ont trouvé un essaim. Et on l'utilisait, mais c'était rare. Donc d'avoir du miel toute l'année. On n'est pas vraiment fait pour en consommer trop.
Oui, mais quand on est malade, c'est bien de prendre une cuillère de miel avec de...
En hiver, voilà.
On est souvent malade en hiver, ici en Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Si ce n'est pas la grippe, c'est autre chose. Beaucoup de gens ont été malades.
Et ce que me disait Pascaline, c'est que si on veut en faire sa profession, il faut avoir au moins une centaine de ruches. C'est pas avec 2, 3, 4, 10 ou même 20 ruches qu'on peut arriver à gagner sa vie. Donc, on peut se faire plaisir, on peut avoir du miel, le récolter, en donner à ses amis. Mais il faut.
Il y a aussi le problème que les abeilles disparaissent.
Ah oui, mais ça, je vais t'en parler. Oui.
Parce que ça, c'est mondial, je pense. Problème mondial.
Oui.
On sait pas.
Ça s'appelle l'effondrement des colonies. C'est un syndrome. C'est bien connu. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu de la reine?
Oui.
La reine d'Angleterre.
La reine des abeilles. Comment reconnaît-on une reine? Parce que des fois, vous savez que sur la route de Matakana, vous êtes arrêté à cette ferme de miel apicole.
Non.
C'est après Pouroy, quand on monte au nord.
Où là, ils font du fromage.
Oui, c'est ça. Juste après un petit cours d'eau sur la gauche, et il y a une ferme là, spécifique sur les abeilles. Et ce qui est très bien pour les enfants, et même pour nous, c'est qu'on voit un rucher entre deux plaques de verre, et on les voit évoluer, on peut bien voir où sont les... c'est grand, hein. Ils ont fait un grand rayonnage énorme.
Et on peut y aller comme ça, c'est gratuit.
C'est pas gratuit, mais c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher. C'est très sympa à voir. Ils vendent du miel, mais c'est surtout pour expliquer le cycle de vie de l'abeille. C'est pédagogique. Hein.
Bien. Et en plus, il y a des jolies plages là-bas en été.
Mais c'est avant Matakana, c'est au milieu. Oui, c'est bien avant, c'est sur la route, je dis, messieurs, et c'est après Pouroy, quelques kilomètres après Pouroy.
Vous pouvez faire d'une pierre deux coups, acheter du fromage à Pouroy et du miel. Ils doivent vendre du miel là-bas, je sais pas.
Oui, ils en vendent, bien sûr.
Ça peut être bon d'ailleurs, du fromage avec du miel dans certains cas.
Les
chèvres frais, c'est mortel.
Ah, bah oui,
ça c'est bien.
Avec
français.
La salade. Donc on va parler bouffe maintenant.
Oui, merde. Ah. Je perds l'habitude, mais c'est pas ce que
la nourriture lyonnaise était très légère, avec beaucoup de beurre, de crème et tout ça.
Moi, je voulais vous dire comment on reconnaissait une reine, parce que quand on regarde à l'intérieur d'une ruche, il y a une alvéole qui est plus grande que les autres et qui est faite spécifiquement pour la reine. Elle fait 1,5 cm à 2 cm, c'est la taille de la reine, contre 1 cm, 1 cm.
Ah oui, donc c'est pas si énorme que ça. Moi, j'avais l'image d'un truc énorme et des toutes petites abeilles à côté, mais non.
Il faut vraiment regarder pour la distinguer. Okay. En fait, c'est la même chose. L'œuf n'est pas différent, mais on le nourrit différemment. Donc, elle se développe différemment. On lui donne que de la gelée royale à cet œuf-là. Mm-hmm. On décide, ce sera la reine. Mm-hmm.
Tu sais comment on le choisit, non?
Non.
Moi, je crois que c'est un peu... ressembler à un autre.
Je sais pas du tout. Mmh. Et elle passe son temps à pondre, cette reine. Elle peut pondre jusqu'à 2500 œufs par jour en pleine saison.
L'enfer.
Et à 2 ans,
la vie super.
À 2 ans, elle est au top de sa fécondité. Et c'est une race, c'est une espèce très très. Ils sont pas altruistes, mais ils sont vraiment. Ils font tout pour que, pas comme nous, ils font tout pour que la vie des abeilles continue, quoi. Ils sont vraiment programmés pour réussir. Donc quand elle se sent moins fertile, moins, elle part d'elle-même pour laisser la place à une jeune reine. Oui.
Ah non, c'est intéressant. Je disais peut-être la reine d'Angleterre, elle ferait bien de faire pareil. elle a pris cher quand même.
Quel âge elle a maintenant? 97.
105 ou un truc comme ça. C'est le temps de la remplacer, je pense.
Ouais. Et elle fait 2 types d'œufs quand même, ça c'est bien. Des fécondés, donc eux donnent naissance aux femelles, les ouvrières ou des reines. Et des œufs non fécondés qui seront les mâles, qu'on appelle des faux bourdons.
Et qui va chercher les petites, sur ces petites pattes-là, qui va chercher ce qu'il faut pour faire du miel? C'est les ouvriers?
Alors, c'est les ouvrières.
Les ouvrières.
Oui.
Les mâles, ils servent à quoi les mâles là-dedans?
Attends, je vais juste finir avec la reine. La cellule de la reine est plus grande et orientée verticalement. C'est comme ça qu'on la reconnaît quand on cherche dans toutes les alvéoles. Et pour montrer qu'elle est reine, parce qu'elle est vraiment... Pascaline me disait, une reine...
Une couronne.
Une reine, elle fait pas rien. Il faut pas croire qu'elle fait que pondre. D'abord,
déjà, c'est pas mal.
Ouais, 2500 par jour. Quand on en a fait un, nous, on se remet pendant des années. Affirme son contrôle sur les ouvrières en libérant des phéromones connus sous le nom de parfum de reine. Donc c'est pour leur dire, c'est moi la reine, c'est moi la reine, c'est moi la reine. Et en plus, si les abeilles ne travaillent pas assez bien, elle les bouscule, elle arpente la ruche pour voir si tout le monde fait son travail. Donc elle est vraiment, j'avais pas un but, mais elle fait son boulot.
Proactive.
Elles sont toutes proactives. Alors, les abeilles, je ne comprenais pas quel rôle elles avaient et comment on décidait. C'est la question de Blandine. En fait, c'est en fonction de leur âge. Elles ont tous les rôles. Alors, quand elles sont petites, elles sortent pas parce qu'elles sont encore jeunes. Des bébés, entre jour 1 et 3, elles font le nettoyage de la ruche. Mais elles ont toujours une activité. Jour 1, tu bosses.
C'est
fou, hein. Oui, ben, c'est bien. Jour 3 à 13... elles sont nourricières, elles vont donner à manger, elles font un peu du babysitting. Elles vont nourrir des jeunes larves avec la gelée royale. C'est comme nos enfants autour de 14-15 ans. Et ensuite, elles cirent l'intérieur de la ruche. Après, elles font gardienne. Donc, elles gardent... Après, elles font ventileuse, parce qu'il faut qu'il y ait cher...
Là, t'es à quel âge
Pour la ventileuse, on est entre 14 jours et 19 jours.
Oh putain, ouais, d'accord.
Donc, jusqu'à 20 jours, elles ne sortent pas tellement. Ventileuse, donc elles... tu sais, en faisant comme ça, on les voit bouger. Parce qu'en fait, elles aèrent, elles régulent la température de la ruche. À 16 jours, en général, elles font leur premier vol d'orientation. Elles sortent, mais juste autour de la ruche pour un peu se dire, ben voilà, c'est comme ça que voler, voilà, je suis prête. Et là, entre 20 et 40 jours, donc c'est la deuxième partie de leur vie, elles sont butineuses. Elles sortent, elles vont jusqu'à 5 km, de 2 à 5 km. Après 5 km, là, elles peuvent ne pas retrouver la ruche. Et elles vont prendre, elles récoltent tout ce qu'il faut récolter pour la ruche, du miella, du pollen, des propolis, de l'eau, celles qui ramènent de l'eau à la ruche, du nectar. Et ensuite, elles meurent. Donc, elles ont une durée de vie d'un mois. Tandis que, ça, c'est les abeilles de printemps. Il y a des abeilles qui naissent à l'automne et elles peuvent, parce qu'elles en font beaucoup moins et elles restent à l'intérieur de la ruche, elles peuvent vivre jusqu'à 4-5 mois.
Ah, d'accord.
Et une reine, c'est plus longtemps, j'avais marqué. Ah oui, une reine, 3 à 5 ans, et il paraît qu'il y a même des espèces qui peuvent vivre jusqu'à 8 ans. Mm. Donc bon, ça change.
Mm. À mon avis, avec toutes les pesticides et tout ça, quoi, avec la...
Elles vont où les abeilles mortes? Pardon, excuse-moi, Yvan.
Pof, comme ça, elles tombent. Elles deviennent de l'humus. Mm. Et pour les bourdons, ce sont les œufs non fécondés. Donc, les bourdons, eux, ils sont juste faits pour féconder la reine. Donc, quand elle décide de sortir, quand elle est bon, elle naît, hein, elle est nourrie. Ensuite, elle se dit, bah, je vais me faire féconder. Elle s'envole, elle produit une odeur qui attire les mâles, les bourdons, qui perdent leur dard et qui meurent. Donc voilà, il la féconde et c'est fini. Et une abeille aussi, quand elle te pique, elle ne voudra pas piquer quelqu'un, c'est là pas une bonne raison. Elle se sacrifiera. Exactement. Mmh. Donc elles sont pas, elles n'attaquent pas. Mmh. Si on ne met pas pied dessus ou qu'on n'est pas en train de bouger leur ruche, elles n'ont aucune raison d'attaquer. Donc elles sont plutôt placides. Et il y a beaucoup d'apiculteurs qui connaissent bien leurs abeilles et qui ne mettent jamais, je les vois parce que je suis sur internet, certains, ils mettent jamais leur, ils y vont comme ça, sans protection spéciale. Et, bah, en revanche, ils regardent les conditions. Est-ce qu'il y a du vent? Ah non, là, on va les énerver, c'est pas le moment. Ils savent quand est-ce qu'ils peuvent y aller.
C'est leur bestiole.
Bah, ils les aiment, hein, ils en parlent d'une bonne manière. Et je vais pas faire une heure sur les abeilles, quoi qu'on pourrait, mais effectivement, comme...
Mais alors, pourquoi elles disparaissent? Pourquoi voilà, à cause de quoi?
Il y a des tas de bouquins qui en parlent. A World Without Bees, un monde sans abeilles. Il paraît que si les abeilles disparaissaient, on aurait 4 ans, l'espèce humaine aura encore 4 ans de réserve pour vivre et après il n'y aurait plus de nourriture. Et on disparaîtrait aussi.
Ben donc, là, on est bien parti, là.
Oui.
Non?
Entre autres. Mais selon l'ONU, le taux d'extinction de ces abeilles, donc qui pollinisent nos aliments, est 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. C'est normal qu'il y ait des abeilles qui meurent. Et, voilà, on sait. Mais là, on appelle ça l'effondrement des colonies. C'est comme un génocide que les humains ont...
Mais à cause de quoi? Des pesticides?
Eh
de
ben,
quoi?
À cause de... Depuis 1970, c'est l'accélération. Donc, il y a des parasites, il y a plus de virus, il y a plus de champignons, plus de bactéries, dégradation de leurs habitats, réchauffement climatique, donc certaines fleurs qui ne poussent plus, et certaines abeilles ne peuvent, parce qu'il y a 20 000 espèces, n'oubliez pas, certaines abeilles ne peuvent récolter qu'une sorte de fleur. Donc, s'il n'y a plus cette fleur, bon, ben, il n'y a plus cette sorte d'abeille. Et surtout les pesticides. Donc les pesticides perturbent énormément l'orientation des abeilles. Donc elles ne retrouvent pas leur chemin, et puis elles meurent. Elles ne sont pas capables de recréer une ruche, puisqu'il faut une reine. Donc ça arrive tout le temps. Et le seul moyen de combattre ça, et dans certains pays, petits pays y arrivent, c'est que la population soit assez alertée. Les gens mettent des ruches dans leur jardin autour où il n'y a pas de pesticides. Et du coup, ils arrivent dans un endroit où normalement il n'y aurait pas du tout de ruches. Des habitations au-dessus de l'opéra, par exemple, il y a des ruches, ça marche très bien. En fait, elles peuvent vivre dans de nombreux endroits s'il n'y a pas de pesticides. Je suis même étonnée, à vrai dire, avec toute la pollution qu'il y a autour de l'opéra. Mais bon, elles y arrivent, elles ont assez de fleurs autour, ils ont bien planté les espèces dont elles ont besoin.
Et j'ai connu une apicultrice l'année dernière, elle me disait que les abeilles étaient désorientées aussi à cause des ondes téléphoniques 4G et 5G qui va arriver à la fin de l'année. Donc je pense que ça va être bien pire pour...
Ça va être dur pour elles.
Mais il n'y a pas que les abeilles. Hein. Il y a aussi les baleines, tout ça.
Ouais.
Donc tout ce qu'ils nous envoient en ondes...
Comme toutes les vibrations. Et alors, à Cuba, bon... On s'est vraiment bien rendu compte de cette histoire de pesticides parce qu'ils ont comparé beaucoup. Par exemple, Cuba, l'agriculture est essentiellement organique. Ils n'utilisent pas de produits toxiques. Et là, toutes les populations d'abeilles se sont maintenues à un niveau stable. Il n'y a pas eu d'effondrement de colonies.
Pesticides.
Ils n'utilisent pas de pesticides à Cuba.
Ben voilà quoi.
Donc c'est la preuve sur le terrain à une grandeur réelle et je veux dire on peut la comparer, je sais pas, ça peut-être la taille de la Suisse, Cuba ou peut-être pas quand même. C'est assez grand.
Je suis pas allé mais.
Ouais, mais donc on a vu que là elles arrivaient très bien à survivre.
Donc la solution elle est simple, non? D'arrêter les pesticides.
On le sait, mais il y a tellement là encore c'est les lobbies contre. Contre des associations qui sont... Alors, le fait aussi qu'on n'ait plus de bocage. Toutes les grandes cultures, monocultures, ils ont taillé, pas taillé, ils ont fait disparaître, ils ont déraciné les haies. qui sont formidables parce qu'il y a des tas de plantes qui poussent là-dedans. Ben voilà, dans nos campagnes, il n'y a plus tellement d'abeilles.
En tout cas, il y a toujours du miel hein, dans les supermarchés puis ailleurs. En Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de miel. Enfin, c'est cher, mais bon, il y a toujours du miel, quoi. Donc, c'est bien la prof qui a toujours des...
Oui, mais il faut voir ça. Hein. Tu vois, le miel, c'est une chose, mais on a besoin de ces insectes pour polliniser nos fruits et légumes. Hein. C'est ça qu'il faut surtout voir. C'est ça leur boulot. Donc, 75% des grandes cultures sont pollinisées grâce aux abeilles et aux insectes. Donc, si on n'a plus ces petits travailleurs qui font ça pour nous gratuitement, d'ailleurs, ça arrive déjà hein, dans des pays comme en Chine, pour les amandes, les gens font ça à la main. Il n'y a plus assez d'insectes. Et ça va nous coûter. Alors, il faut s'attendre à ce que nos fruits et légumes coûtent beaucoup plus cher dans les quelques années. Oui, non, mais c'est... Voilà. Parce que ça sera fait différemment.
C'est quand même déjà assez cher comme ça.
C'est pas fini. C'est que le début. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire.
Est-ce que tu as prévu une petite pause musicale avec d'autres abeilles ou
on va écouter quoi ? Ben, je vais la trouver.
Ouais. C'est une chanson sur les abeilles.
Oui.
Il y avait un dessin animé quand on était là.
Justement, je vais pas vous.
Splendine, elle était fan, elle a tous les DVD. Maya l'abeille.
J'aimais bien. Hein. Oui, pas les DVD, parce qu'il n'y avait pas de DVD à l'époque, mais j'aimais bien.
Il y avait aussi les Barba Papa. Les Barba Papa, c'est sympa quand même.
Ouais, c'est génial.
Hein
ouais.
Les premiers sont assez... c'est les 70, hein.
Ouais.
J'étais élevé avec les Barba. Même mes enfants ont été élevés avec les Barba Papa.
Aussi.
Ça vieillit pas, en fait.
Non, c'est vrai. Et c'est marrant, justement, on parle des abeilles, mais tous les côtés écologiques, tout ça, on en parlait vachement dans Barba Papa.
Ah ouais, exactement.
Quand tu regardes aujourd'hui, c'est assez marrant de se dire, c'est marrant, c'est quelque chose qui interpelle les gens à cette époque-là. Les années 80 et son mercantilisme est passé par là, mais c'était ultra branché environnement en 70.
Hein. Donc,
et en 79, c'est là qu'ils ont eu les premières discussions sérieuses, mais ça devait être en deuxième partie de soirée, avec Cousteau et surtout Haroun Taziev, et ça date de 79.
D'ailleurs, Cousteau, il n'était pas très...
Non, justement, là, c'était plutôt Haroun Taziev. Et Robert Redford aux Nations Unies, qui lançait un appel. C'était aussi en 79. Donc là, ça date de je ne sais pas quand, et ça va être Bourvil, et le titre, c'est Les Abeilles. Et... non, là c'est pas bon, c'est... Voilà,
je pensais que t'allais mettre God Save the Queen de Sex Pistols, mais non.
Il laisse ça tranquille, la queen, un peu.
Elle a le droit de vivre. Elle n'a pas décidé de quitter la ruche.
Bah non, mais ça va arriver, hein, parce que...
Et ça se gonfle et s'abandonne à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. c'est celui qui la rattrapera, qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après, il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille, ah, si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles, je demande un peu. Enfin, allez, à la ruche, à la ruche.
Voilà, c'était Bourville, on la reconnaît bien.
Hein, la... oui, on connaît bien. Et voilà, on a parlé assez, on a bien parlé des abeilles, mais je trouve que c'est un sujet intéressant.
Tu as vu beaucoup d'abeilles, toi, à Paris, Blandine?
Non, mais il me semble qu'il y en a, en fait. Je crois qu'il y en a dans certains endroits. Mais non, je n'ai pas vu d'abeilles à Paris. Je n'en ai point vu.
Pourtant, il y avait beaucoup de gilets jaunes.
Il y avait des gilets jaunes, oui. Ouais. Ouais. En plus, nous, on habitait près de la place de la République, donc tous les samedis, on y avait le droit. Quoi.
Ah ouais?
Au CRS, c'était pas mal pour les enfants. Ils ont eu un petit crash course en...
Ah bah
en,
ouais. Enfin, c'est assez dangereux quand même, non?
Ouais, un jour, on s'est retrouvé avec Svi, on est sorti avec mon fils, on est sorti Place de la République.
Tu me l'avais raconté.
Ouais, et on s'est retrouvé coincé, en fait. Quoi, ils nous ont laissé passer, mais on a eu un petit coup de chaud. Tu voyais tous les CRS courir. Ils sont assez impressionnants, les mecs, quand ils courent tous ensemble, quand même.
Les CRS?
Ouais.
Bah, ouais,
j'ai fait un petit bloc, ouais. Donc voilà.
Enfin, on va pas parler des gilets jaunes ce soir, mais.
Non.
Il y a sûrement plus de gilets jaunes que d'abeilles à Paris, quoi.
Oui, je sais pas, oui.
Une ruche, on a jusqu'à 20 000, alors quand même.
Si ouais, en plus, ils sont plutôt en province. Enfin, bref. Donc, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est de Frances Hodgkins. Donc, c'est une peintre néo-zélandaise, mais qui a fait une grosse, grosse partie de sa vie artistique en Europe. Et elle est en ce moment plus que pour plus longtemps, 10 jours, en fait, à la Galerie d'Auckland. L'exposition suit à Wellington. Je ne saurais pas vous dire les dates. Mais donc, c'est une exposition qui est un peu dédiée, en fait, qui parle de ses voyages, de ce qu'elle a, parce que finalement c'était d'une certaine façon une peintre itinérante. Elle est restée beaucoup en Angleterre, mais elle a quand même beaucoup bougé. Et c'est une femme qui est assez intéressante. Et donc moi j'ai commencé à travailler sur un documentaire sur sa vie, parce que ça n'a jamais été fait. Il y a eu pas mal de bouquins écrits sur elle, pas mal de publications aussi. Il y a sa correspondance. Donc il y a des choses qui ont été publiées sur elle, mais pas de film. Et comme j'étais en relation étroite avec les gens de la galerie d'Auckland, je leur ai proposé de faire ça. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ce travail qui est passionnant. Et la première chose que j'avais faite, en fait, c'était de rencontrer Marie Kissler et Catherine Hamon, qui sont donc respectivement là, une senior curatrice senior, Marie, et puis la bibliothèque. Une des bibliothécaires de la Auckland Art Gallery, elle est maintenant au musée d'Auckland, elle a changé. Et donc toutes les deux, ils ont reçu un fonds, je ne sais plus de quel ordre, mais en tout cas elles ont reçu pas mal d'argent qui leur ont permis de mettre à jour le catalogue de Frances Hodgkins, qui était une espèce de petit catalogue un peu, qui était pas mal, hein, qui était c'était un travail énorme qui a été fait par une personne qui s'appelle McCormick. Mais c'était des petites fiches de papier avec des petites reproductions en noir et blanc. Et donc, avec cet argent qu'elles ont reçu, elles ont pu faire un catalogue en ligne du travail de Frances Hodgkins, mais également voyager et partir en fait sur les traces d'Hodgkins en Europe. Ce qui a permis de repérer un certain nombre de choses. Elle était également... peintre, mais également professeur. Et du coup, il y a eu pas mal d'œuvres qui laissaient, sur lesquelles on avait des doutes, puisque il y avait des personnes qui dessinaient sous sa direction. Et parfois, il y a effectivement des doutes sur qui a écrit, qui a dessiné quoi, est-ce que c'est vraiment d'elle, etc. Et donc, ce voyage était notamment, c'était fait pour voir où elle avait travaillé, où elle avait peint, quelles étaient ses influences, etc. Donc c'était quand même un travail de fond assez important. Et donc j'avais rencontré, je connaissais Marie-Catherine de Nouvelle-Zélande, mais quand elles m'ont dit qu'elles allaient à Paris, j'y étais en même temps. Je leur ai dit, si vous voulez, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à simplifier les choses, les Parisiens n'étant pas toujours faciles, notamment tout ce qui concernait l'accès aux bibliothèques, etc. Elles avaient pris leur rendez-vous, tout ça, elles s'étaient bien organisées. Elles sont quand même tombées, se sont cassées le nez sur 2-3 endroits qui étaient fermés parce que c'était pendant l'été. Et je les ai filmées là-bas une première fois. Un film qui doit d'ailleurs être sur le site de la Galerie d'Auckland maintenant, peut-être dans l'exposition, je ne sais pas, je vais y aller demain, donc je verrai. Où j'ai... en fait, on a trouvé à l'endroit... Il y a un endroit à Paris où elle a enseigné l'aquarelle, c'est l'Académie Collard Rossi. Et cette académie, elle a été le premier professeur féminin, en fait, à enseigner dans cette académie. Et l'académie n'existait plus. Et on l'a quand même retrouvée un petit peu par hasard. C'est une histoire assez amusante parce qu'on... Maintenant, quand on arrive dans la rue, en fait, c'est un restaurant. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une académie juste à côté qui s'appelle l'Académie de la Grande Chaumière. Donc, comme je suis un petit peu curieuse, je suis rentrée. Et il se trouve que l'Académie Collard aussi a été intégrée avec cette Académie de la Grande Chaumière. Donc, on a pu rentrer dedans. Et alors, le truc qui était incroyable, c'est qu'il y avait il y avait un atelier qui est celui qui existait déjà au 19e siècle, en fait. Donc, avec, on connaît les photos des académies de cette époque-là. Quand on voit l'endroit, on est
impressionné d'y être.
Voilà, on a l'impression d'y être, grand, énorme hauteur sous plafond, grande verrière, sol en bois, enfin tout, on a vraiment l'impression d'être transporté dans le temps.
Ils l'ont conservé exprès pour...
Et ben ils continuent en fait à donner des cours là-bas en fait. Il y a toujours des élèves, et toujours des élèves d'ailleurs anglo-saxons, parce que moi quand je suis rentrée, je suis arrivée dans une classe, le prof parlait même pas français, il parlait en anglais, donc et donc c'est toujours les mêmes, l'esprit restait le même. Et donc on a pu, et alors du coup j'ai demandé à l'Académie de la Grande Chaumière si je pouvais interviewer et filmer Marie et Catherine dans cet atelier, et très gentiment ils nous ont laissé faire ça. Donc par la suite l'idée est venue de faire un commentaire un peu plus complet, donc il devrait une fois fini être une web-série qu'on passera sur le site de la Galerie d'Auckland. Et donc, j'ai passé 15 jours, là, juste avant de rentrer en France, un peu plus de 15 jours,
en
Nouvelle-Zélande, à visiter, en fait, aller voir plusieurs endroits dans lesquels elle avait vécu ou peint, etc. Donc, c'était super intéressant. Donc, alors, j'ai commencé par Cassis, près de Marseille.
Cassis.
On dit pas le S, non.
Si.
On le dit pas parce que on s'est fait engueuler plusieurs fois là-bas parce qu'on le disait. Dans le train d'ailleurs, parce que je me suis dit je vais bien écouter, ils disent bien Cassis et on m'a dit ouais c'est.
D'accord.
Moi j'allais en vacances quand j'étais petite là-bas. Oui c'est dans le sud mais bon le S se prononce pas bizarrement. Bon enfin bref. Donc je suis allée à Cassis, ensuite je suis allée à Martigues. Cassis je connaissais pour y avoir passé pas mal de Martigues. J'avais passé pas mal de vacances à Cassis, Martigues je connaissais pas du tout en revanche. Et
c'est super joli,
Martigues. Et ben c'est assez joli en fait. C'est un lieu très 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 étrange parce que t'as une effectivement une zone industrielle énorme et puis tu rentres, il y a un village qui est très très beau avec un petit canal, ils ont un lac aussi, enfin l'étang de Berck qui est assez joli avec une espèce de petite plage. Enfin, j'ai été assez surprise par cet endroit. Et alors ce qui était marrant aussi, c'était le contraste entre Cassis ultra touristique et Martigues, justement probablement à cause de ce côté industriel et puis le fait que ce soit sur le côté d'un étang plutôt que sur le côté mer.
Ça rebute.
Voilà, oui. Et c'est pas facile d'y arriver non plus. Hein. Je me suis retrouvée à la gare, mais il y avait personne. J'étais la seule à sortir à la gare. J'ai compris après que tout le monde y allait en bus, en fait, mais bon. Et donc, je me suis retrouvée à l'arrêt de bus, un dimanche, personne. C'était une drôle d'expérience. C'était assez marrant. Donc, je suis allée dans ces deux endroits parce qu'elle y a été.
Elle y a été peindre ou elle a été enseignée?
Elle y a été peindre. Martigues, elle a enseigné aussi. Mais elle adorait le sud et je pense que la lumière néo-zélandaise devait lui manquer et adorait enfin c'est une de mes suppositions qui est absolument pas que j'ai lu nulle part, mais en fait je me suis dit quand on lit sa correspondance, on voit tout ce qu'elle elle a passé beaucoup de temps en Angleterre et forcément elle supporte pas cette espèce de temps gris, etc. Bon, pour les peintres de toute façon on sait bien qu'ils préféraient dans des endroits où les couleurs effectivement
elle
vont être exacerbées.
En Nouvelle-Zélande.
Elle est de Dunedin. Et elle a grandi là-bas, elle y a vécu jusqu'à 30 ans à peu près. Et puis ensuite, alors la vie a fait qu'elle avait une grande sœur qui était. Elle a grandi dans une famille d'artistes en fait. Son père avait un boulot normal, je sais plus quoi exactement, mais en tout cas, il était amateur de peinture. Mmh. Il faisait beaucoup d'aquarelles. Sa sœur aînée faisait beaucoup d'aquarelles et elle aussi. Et donc la sœur aînée, visiblement, était un peu celle qui avait tout. Elle était plus belle, elle était meilleure en aquarelle. Enfin bon. Et donc, quand elles sont devenues jeunes filles, la sœur s'est mariée. Et game over, comme on dit.
Donc, elle a pu continuer.
Donc, et donc, elle, en fait, c'est...
Elle s'est échappée.
C'est pas qu'elle s'est échappée, c'est qu'elle avait pas de prétendant, elle avait pas de... Et c'est assez marrant, d'ailleurs, quand on regarde cette histoire, c'est que je pense qu'elle aspirait un peu à ça, puisque comme en Nouvelle-Zélande, c'était un petit peu le chemin que prenaient toutes les femmes de l'époque, à savoir se marier et puis... avoir des enfants. Et elle n'avait pas... sa sœur a eu un bel homme qui lui a rendu la vie infernale par la suite, d'ailleurs. Mais bon... et donc, voilà. Bon, pour faire l'histoire plus courte, elles avaient toutes les deux des très, très, très sérieuses bases en dessin, en art, en aquarelle avec leur père, puisque très tôt, elles en ont fait. Et donc, Frances a fini par prendre des cours pour être prof de dessin. Et donc à l'époque, en fait,
puisqu'elle se mariait pas, il fallait qu'elle ait
son père, leur père est mort et du coup la mère était seule et donc à l'époque, quand on était la vieille fille entre guillemets de la famille, on s'occupait des parents quoi. C'était un peu le
son rôle.
Donc la Française, elle se dit un peu taillot. Et elle a voulu aller faire un tour en Europe pour voir, etc. Mmh. Donc elle a réussi à mettre un peu d'argent de côté en donnant des cours de dessin, justement. Et en 1901, elle est partie en Europe. Elle a commencé par la France. Elle est arrivée à Marseille.
Elle ne parlait pas français.
Elle ne parlait pas français, mais bon, à l'époque, ils avaient des espèces de réseaux. Et puis bon, elle s'est arrêtée à Marseille et puis elle est allée directement en Angleterre. Elle est allée en Angleterre, mais très rapidement, elle s'est rendue compte en termes d'art, c'était pas la folie en Angleterre. Et à l'époque, Paris, c'était du délire. Si on y pense, c'est l'époque des Demoiselles d'Avignon, un peu plus tard avec Picasso. Enfin bon, c'est le moment où tous les artistes convergeaient à Paris. Et donc, elle a décidé d'aller à Paris. Et elle a commencé, en fait, ça a commencé à bien marcher. On a reconnu ses talents d'aquarelliste. Elle a également pris des cours, notamment de peinture à l'huile, ce qui n'était pas du tout sa spécialité. Et elle a commencé aussi par des classes d'été. Comme c'était ce qu'on faisait à l'époque, en tout cas, c'est-à-dire que c'était des anglo-saxons, la plupart des anglais, hein, ils parlaient tous anglais, donc il y en a qui venaient d'un peu partout, des américains, des néo-zélandais, australiens, etc., oui, anglais même, et donc elle a commencé à aller à faire des cours l'été, à suivre des cours, donc elle n'était pas la prof, parce que plus tard dans sa vie, c'est elle qui donnait les cours, mais là, c'est elle qui les prenait, quoique le prof lui a très vite dit, écoute, t'as rien à apprendre de moi, mais bon, elle était quand même heureuse d'être dans un environnement qu'avec des gens qui avaient envie de peindre, et donc elle sortait quand même de sa petite Nouvelle-Zélande, où on attendait d'elle où on la regardait un peu de haut, finalement, parce qu'elle, socialement, elle n'en remplissait pas son contrat, quoi, c'est pas qu'elle le remplissait pas, mais parce qu'on attendait d'elle, et là, elle se retrouve dans un endroit complètement libre, où elle peut peindre et faire ce qu'elle adore, et donc elle a vraiment un coup de foudre pour ce qui se passait.
Elle s'épanouit. Et quand tu dis, on a reconnu son talent, donc elle vendait ses toiles à Paris.
Alors elle vendait des aquarelles, elle a aussi eu des articles sur ce qu'elle faisait, etc. C'était très très modeste au début. Le premier voyage qu'elle a fait, ça reste très modeste parce que elle apprenait aussi énormément, hein, puisque elle était en Nouvelle-Zélande, il y avait très 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 peu. Elle a eu un prof qui venait. Qui venait d'Italie, qui justement avait une façon de peindre un peu différente. Donc ça a été un peu le seul la seule ouverture qu'elle a eue sur ce qu'était ce qu'on appelle l'art moderne, en fait. Mm. Et d'ailleurs, pendant toute sa vie, ça a été le même problème, c'est que Nouvelle-Zélande n'a jamais rien compris à sa peinture. C'est-à-dire que si elle était
elle
bien
était reconnue
trop...
en Europe.
Oui, elle était bien trop avancée, en fait. Donc au départ, quand elle envoie des peintures en Nouvelle-Zélande pour vivre, parce que ce qu'elle gagne en France n'était pas suffisant pour vivre, elle envoie des choses super classiques, en fait. Elle sait que ça va pas marcher. Si elle envoie des trucs un peu trop
olé-olé.
Oui, elle fait, et même elle peint pour faire de la peinture commerciale, quelque part, pour en vivre. Donc elle est revenue au bout de ça, c'était un peu son overseas experience, c'était son OI. Elle a fini par revenir au bout de 3 ans en Nouvelle-Zélande.
Elle revient s'occuper de sa mère.
Elle revient parce qu'on avait dit qu'elle revenait, quoi. Mais je crois qu'elle avait déjà été piquée par ce qui lui avait ouvert l'esprit, en fait, et ce qui lui plaisait comme type de vie. Même si par la suite, elle a pas eu une vie dans l'ensemble, mais elle a eu une vie qui a été vraiment une vie de financièrement, en tout cas, de misère, et qu'elle a bien bien galéré. Et donc en revenant dans le bateau, elle a rencontré un mec qui était une sorte d'aventurier avec qui elle a bien accroché. Et ils ont continué à s'écrire par la suite de ce voyage-là, et jusqu'à ce qu'ils lui finissent par la demander en mariage, en fait.
Il était quelle nationalité ?
Écoute, je sais plus. Il me semble qu'il était américain, mais j'en suis pas certaine. Oui, c'est un anglophone. Mmh. Oui. Et donc, elle annonce ses fiançailles, etc. Et finalement, l'homme en question a cassé les fiançailles. Et je crois que ça a été un petit peu un déclencheur, c'est-à-dire que du coup, c'était un peu la honte, quoi, parce qu'elle avait dit qu'enfin elle se mariait, elle se sentait un peu rentrée dans le rang. Et donc elle s'est dit, ça y est, c'est cuit, je vais rester avec ma mère à travailler, et voilà, dans un environnement. En plus, elle avait goûté un peu à l'excitation de ce monde parisien qui était
où elle se sentait bien.
Où elle se sentait bien, exactement. Et donc elle est repartie. Ouais. Elle a rassemblé l'argent, elle est repartie.
Et elle va avoir quoi, 35 ans là.
Oui, et donc là elle est allée à Paris, et c'est là qu'elle a commencé à donner les fameux cours à l'Académie Colarossi dont je parlais tout à l'heure.
C'est dans quel coin, l'Académie?
L'Académie Colarossi, c'est pas loin de la gare Montparnasse, dans le 14e. C'est près de des cafés qui sont connus chez les artistes, de Le Dôme, la Coupole, etc. C'est la petite rue, la rue de la Grande Chaumière, ça donne sur ces cafés quand on remonte. Et donc elle a commencé à vraiment vraiment se faire une place à Paris, commencé à parler français. Enfin, donc elle avait vraiment après l'Académie Colarossi, elle a ouvert un atelier avenue du Maine, juste à côté de la gare Montparnasse, où là elle avait pareil une grosse classe. Elle avait pas mal de succès, en fait, puisqu'elle était anglophone et qu'il y avait plein de gens qui convergeaient vers Paris, alors dont des peintres de niveaux différents, en fait, mais qui étaient prêts qui venaient là pour apprendre. Et donc ça marchait bien pour elle, d'autant plus que c'était assez
une femme.
Voilà, elle continuait. Alors c'est là aussi un peu tout le truc de sa vie, c'est que c'était être artiste à l'époque, on les connaît, ils ont galéré tous pas mal. Donc financièrement, c'était dur d'être un artiste, dur d'être étranger, elle était étrangère, et dur d'être une femme par-dessus le marché. Donc elle a quand même elle a accumulé les difficultés, ouais. Mais une femme avec une espèce de ténacité mais hallucinante, une confiance en elle que je dirais toute néo-zélandaise au bout du compte, qui l'ont certainement une mère, on sent bien dans sa correspondance qu'il a toujours un petit peu soutenue, pas tant financièrement, parce que la maman n'avait pas de sous, mais on sent qu'il y a une espèce de soutien. Elle est même parfois dans ses lettres un peu capricieuse, hein. Elle veut qu'on l'aide, enfin, tout au long de sa vie elle veut que sa famille l'aide, alors que bon, ils sont en train de vivre leur vie pas forcément facilement de l'autre côté de la planète. Mais donc oui, elle a des relations très on voit dans sa correspondance, c'est assez intéressant d'ailleurs, je trouve qu'on voit pas mal de choses, des rapports qu'elle a pu avoir
mais comme tu dis, c'est intéressant que tu dises avec une confiance toute néo-zélandaise, parce qu'elle accumule les difficultés mais elle lâche pas, elle a confiance, elle give it a go, elle essaye quand même.
Alors en plus elle a eu un manque de bol mais hallucinant tout au long de sa vie. Donc par exemple donc elle est restée plus
des occasions.
C'est pas elle qui a loupé des occasions, c'est qu'elle était à une époque qui était troublée, en fait, puisqu'elle est née en 1869. Quand elle arrive en France, c'est 1900. Elle est revenue vivre quelque temps en France, et puis elle a refait un voyage en Australie, Nouvelle-Zélande, mais là, elle sait déjà qu'elle retournera en Europe. Elle sait que c'est fini, qu'elle revient en... Et d'ailleurs, elle est assez renommée, parce qu'elle a été, son travail a été accepté à l'Académie des Arts de Londres. Donc, elle a commencé, elle revient au relais d'un certain succès en, en Australie. Elle sait pas qu'elle revient dire au revoir, parce que elle s'est jamais dit qu'elle allait pas pouvoir revenir par la suite, mais ça a été le cas, elle a pas pu revenir par la suite. Et donc, quand, quand elle est revenue, on a fait, elle a fait une exposition, plusieurs expositions à Sydney, qui ont remporté un grand succès, qui lui ont donné, elle a réussi à gagner pas mal d'argent. Elle a passé quelques temps, à Auckland, et puis elle est repartie en Europe. Et c'est un peu là, je trouve, où la poisse a commencé à lui tomber dessus. On n'est pas loin de la Première Guerre mondiale. Elle a d'abord passé pas mal de temps en Italie. Et donc avec une bonne réserve de dessins à pouvoir vendre une fois arrivée à Paris, et elle a perdu tout son travail dans un train, changement de wagon, et tout son travail de plusieurs mois a été perdu. Donc ça a été un peu le premier. Donc elle est arrivée à Concarneau où elle avait déjà fait plusieurs classes. Elle est arrivée là-bas pour donner des cours. Et c'est là effectivement que la Première Guerre mondiale a éclaté. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Soit vous restez là et vous êtes coincés, soit vous partez tout de suite
en Angleterre.
Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie à St Ives dans les Cornouailles anglaises, un endroit qui est magnifique où je suis allée d'ailleurs aussi pour filmer. Et donc elle est partie là. Donc ça a été un peu le premier revers, parce qu'à Paris elle était bien installée, elle avait une certaine réputation.
Et elle repart à zéro.
Voilà. Elle aurait pu devenir une peintre française, entre guillemets, un peu à la façon d'autres peintres, comme ceux qu'on connaît bien, Picasso qui était espagnol, mais qui. Ils étaient tous de leur origine, et en même temps, ils ont tous trouvé leur place dans le monde de l'art français. Et donc, elle est partie en Angleterre. Et beaucoup plus tard encore, pas longtemps avant la Deuxième Guerre mondiale, elle est choisie comme artiste pour représenter l'art britannique, à la Biennale de Venise. Et paf, Deuxième Guerre mondiale. Et pareil, son exposition, on l'a fait, mais à Londres, rapido presto. Parce qu'il y a d'autres chars
qui essaient. Voilà.
Et donc, elle a quand même eu une vie difficile, mais toujours, elle a continué dans cette même voie. Et en termes de vie sentimentale, on pense qu'elle était certainement homosexuelle, mais bon, ça avait pas l'air d'être le cœur de sa vie. C'était vraiment l'art qui était l'art qui était la chose la plus importante pour elle, c'est évident. Et donc ce voyage, pour revenir à ce petit voyage que j'ai fait sur ses traces. Alors, faut savoir que Marie Chrysler a fait un voyage extensif, et elle en a fait plusieurs pour aller sur les traces de Frances Hoskins. Donc il y a eu deux livres qui ont été publiés, un sur son voyage à elle, Marie Chrysler, sur les traces de Hoskins. Alors, donc c'est assez marrant, parce que moi j'étais sur les traces de Marie, qui avait été sur les traces de Frances Hoskins, donc c'était assez marrant. Et puis un autre sur le catalogue de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Auckland Gallery, qui est très intéressant aussi.
Quel genre de peinture fait Frances?
Elle veut pas rentrer. On a du mal à la mettre. Elle a fait partie un peu de ce qu'on appelle les modernistes anglais. Ça change un petit peu au cours de sa vie, mais ça reste du figuratif. Elle a jamais voulu être une peintre abstraite, alors qu'elle a côtoyé pas mal de gens qui, au bout d'un moment, ont choisi de faire partie de tout, de créer, en fait, de se rendre à l'art abstrait. Elle a toujours tenu à la figuration.
Tu sais que dans Wikipédia, quand tu cherches Frances Anne Hopkins, la première chose que tu vois, c'est une artiste peintre anglaise.
Non, mais c'est Hodgkins. Alors, c'est peut-être pas la même.
Ah, ouais. Elle s'appelle Frances Anne.
Frances Hodgkins.
Alors, ça s'écrit
comment? C'est
H-O-D-G-K-I-N-S.
Voilà.
Ah oui.
Et je suis allée à Londres pour filmer dans un endroit où elle a vécu, etc. Londres, c'est une ville qu'elle aimait pas. Elle aimait beaucoup Paris, mais elle aimait pas Londres, parce que c'était une ville qui était chère. Et je crois aussi qu'à Londres, elle connaissait pas mal de gens, et elle avait des relations, etc., mais pas les moyens d'avoir une vie sociale. Elle avait pas de quoi s'habiller, elle était toujours, et il faisait super froid. Enfin, Londres, à l'époque, c'était pas une ville super, qui était extrêmement polluée, qui était dure, c'était dur d'y vivre.
C'est super intéressant, sa peinture.
Et oui, c'est assez intéressant, oui. Et donc, elle aimait bien Paris, parce que je crois que c'était plus vivable. En termes de vie artistique, c'était assez. Il se passait beaucoup de choses, quoi qu'il s'est passé des choses à Londres aussi. Et donc, elle a commencé en étant à St Ives. Et St Ives, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est donc c'est le petit bout du nez de l'Angleterre, c'est vraiment tout au bout en bas sur la gauche là. Et c'est incroyable comme lieu. Comme je suis arrivée là-bas, c'est les plages de sable blanc. C'est un côté tropical, c'est complètement hallucinant en Angleterre. Alors j'y suis allée en plein été, donc bien entendu c'était, il y avait du monde, il y avait des troupes de touristes partout, mais il y avait notamment un studio, enfin un ensemble d'ateliers dans lequel elle a travaillé. Alors elle y est allée en 14, mais elle y est retournée plus tard dans sa vie aussi. Donc dans cette série d'ateliers, elle a travaillé. Les ateliers existent toujours, sont toujours occupés par des peintres. Le sien, le numéro 7, est occupé par un couple d'artistes. Et donc j'ai réussi à choper un peintre en fait, parce que bon, il y a des portes ouvertes, mais on peut pas rentrer là-dedans, on les laisse travailler. Et donc j'ai réussi à coincer un peintre qui était en train de prendre son café pour trouver de l'inspiration, et je me suis incrustée pour filmer de chez lui la vue qu'on avait en fait, et c'est complètement incroyable. C'est une série d'ateliers avec vue directe sur la mer. Mmh. Donc grandes fenêtres, c'est complètement, et la mer là-bas est turquoise.
C'est des lieux de résidence pour les peintres ou...
Oui, ouais, ah. Ouais. Enfin ils y travaillent. Il n'y a pas l'air d'avoir de... Quoique j'en ai vu un où il y avait l'air d'avoir un lit. Donc ça doit dépendre, chacun en fonction de ses moyens de faire.
C'est du travail.
Mais en tout cas, c'est des studios pour peindre, ouais. Et c'est toujours... ça l'était à l'époque et ça l'est toujours aujourd'hui.
Donc elle est allée dans ces mêmes studios. Ils n'ont pas été changés, là aussi?
Non, c'est exactement la même
configuration. C'est bien de pouvoir revenir.
Oui, c'est fantastique de pouvoir voir. Et voir ce qu'il y avait, effectivement.
Donc on va pouvoir voir ton documentaire.
Le documentaire, il est pas encore fait. J'ai jusqu'à juillet prochain pour le faire. On a fixé le symposium qui va avoir lieu à Wellington.
Il faut quand même dire que ça a l'air d'être une artiste. Moi qui connais, je connais son nom, mais je connais pas du tout ses peintures. Je suis en train de regarder quelques peintures. Il y a des ressemblances avec certaines peintures de Chagall. Là, ça me fait penser à Van Gogh parce que ça bouge. Elle est passionnante.
Elle a été bien sûr touchée par les impressionnistes parce que elle a commencé sa vie à l'époque où ils étaient importants. Et puis elle n'était pas à la pointe de l'art. Hein. C'est-à-dire que justement, je parlais de Picasso tout à l'heure. Elle est pas du tout. Elle a un peu passé à côté de ça. Hein. Elle était quand même plus
raisonnable.
Oui. Et puis bon, je pense qu'elle restait dans un milieu qui était un milieu d'étrangers et que bon, il y en avait qui étaient vraiment quelques-uns qui étaient vraiment à la pointe, et bon, elle était plus dans un... Elle a quand même inspiré. Et puis bon, c'est du figuratif, mais c'est pas du classique du tout. On voit qu'il y a quand même grande énergie dans sa façon de peindre aussi. Et d'ailleurs, c'est une personne, on sent qu'elle est extrêmement énergique. Elle a quand même traîné avec des artistes qui avaient 20 ans de moins qu'elle la plupart du temps. Donc elle était quand même, c'est une femme qui adorait la présence des jeunes autour d'elle. Donc
elle n'était pas classique.
Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, je pense pas que les artistes, c'est rare de trouver des artistes qui soient classiques, à part de dimanche. Tu voulais mettre la musique
On va bientôt
j'ai hâte de voir une exposition de fin de semaine.
Bon, en tout cas, vous avez jusqu'au 1er septembre pour aller la voir à la Auckland Art Gallery. Et puis, dès que le film est fait, on vous en reparle. Il y a encore du travail sur la planche.
Voilà.
Tu viendras nous voir. Hein.
Oui, bien sûr.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Voilà Dieu qui m'a fait.
Au revoir alors. Merci à Séverine, merci à Blandine.
Merci Yvan, à la semaine prochaine.
Voilà. Et donc, regardez les peintures de cet artiste sur Internet.
Hodgkins.
Ah, allez le voir là au Clan d'Art Gallery.
Oui,
aussi, aussi.
C'est bien de pouvoir voir une peinture en vrai.
Oui. Exactement. Merci à tous et à toutes.
Au revoir.
Au revoir.
Fais courber la tête et je sens que je t'en